France Inter, 13h30, la marche de l'histoire. Bonjour Jean Lebrun.
Bonjour Yves.
Vous épluchez le calendrier républicain.
Eh ben oui, il fut une époque aussi courte que troublée où le mois de février comptait 30 jours.
Quelle nostalgie plus profonde pouvons-nous avoir que celle d'abolir le temps ?
Le calendrier républicain.
Je vous rappelle que nous sommes dans une année bisexuelle, bissextile, pardon, qu'effectivement, que nous avons un jour de plus. Je ne sais plus trop ce que je dois dire, désolé.
Parmi les nombreuses vertus qu'affichait le calendrier imposé par la Convention, l'an 2 de la République en octobre 1793, et dans l'étude qui prend un relief particulier ce jour, le système mis au point alors, voulant éliminer toutes les bizarreries de l'ancien style, les mois se retrouvaient tous dotés de 30 jours. Ils étaient citoyens à parts égales. Et le citoyen février se félicitait de ne plus être opprimé par ces messieurs de janvier et de mars. Pareillement, le mois se divisait en 3 décades de 10 jours. Mais là, il y avait une difficulté. Le décadi remplaçait le dimanche. Alors, quel jour devait-il être chômé ? Seulement le décadi ? Et quel jour placer la messe ? Seulement le dimanche ? La bataille du calendrier fut très âpre parce qu'elle se confondit avec la grande campagne d'éradication du catholicisme. Transformation des églises en maisons nationales, fonte des cloches, déchristianisation du nom de bon coup de commune. Sans doute la patrie était-elle en danger, mais le plus immédiat, c'était ce que chacun vivait dans son horizon proche. Et beaucoup se trouvaient blessés par ces bouleversements. Bien que défendu activement par le directoire, le respect du calendrier républicain se délita vite et Bonaparte lui porta le coup de grâce après à peine 13 ans d'usage orageux.
La marche de l'histoire, France Inter, Jean Lebrun.
Jean-Luc Chappet, bonjour.
Bonjour.
Distingué, enfin il faut être égalitaire, historien de la Révolution, vous intéressez notamment à l'étude biographique du parcours des conventionnels. Vous intéressez aussi beaucoup aux savants en Révolution et aux poètes en Révolution, parce que la mobilisation révolutionnaire a concerné aussi ceux-ci.
Qui vont en effet jouer un grand rôle lors du calendrier, qui avait joué un grand rôle dès 1789 dans la recomposition territoriale à travers la mise en place des départements, mais aussi l'uniformisation du maître. Ces savants donc qui continuent entre 1789 et 1793 à être très intégrés aux institutions politiques et à jouer un rôle de premier plan dans la remise en ordre, en quelque sorte, de la République à partir de 1792.
La réforme du maître, c'est un peu le modèle de rationalisation et de régularisation.
C'est le modèle, tout à fait, hein, dès 1789, la volonté de réformer les poids et les mesures.
Mais c'est plus facile ou moins difficile de transformer le mètre en décimètre et en centimètre que de transformer la semaine en décade. On va y venir, mais chaque chose en son temps. Commençons, nous sommes après la chute de la monarchie, au moment de l'établissement de la République, par ces textes qui sont votés par la Convention nouvellement élue en septembre 1792.
Messieurs, un peu de silence. Messieurs, en ce jour mémorable où la Convention nationale élue par tous les Français se réunit pour la première fois, je mets aux voix la proposition du citoyen Collot d'Herbois, proclamée à la face du monde que la monarchie est abolie en France. La motion est adoptée. La motion est adoptée. Je propose, s'il vous plaît, citoyen Biot-Varenne, venez à la tribune. Je peux dire ce que j'ai à dire d'ici. Je demande qu'à partir d'aujourd'hui, tous les documents publics soient désormais datés de l'an 1 de la République française.
Le film Les années terribles de Richard Efron, il a du mérite, Collot d'Herbois, parce que il fabrique des almanachs.
Exactement.
Et un fabricant d'almanachs, il est quand même très concerné par toutes les modifications calendaires.
Tout va changer très rapidement.
Mais attendez, tout va changer. Non, là, c'est la proclamation de l'an 1. On aurait pu dater d'ailleurs l'an 1 du 1er janvier 89 ou bien du 14 juillet 89.
Certains journalistes l'ont fait. Dès le mois de juillet 1789, on voit apparaître dans les journaux l'idée d'un nouvel an qui commence. Donc certains journaux sont, dès 89, datés de l'an 1 de la Révolution.
Bon, enfin, le choix qui est fait, c'est 92. Comme on dira plus tard pour la justification des années sextile, disait-on pendant la Révolution française, il a fallu 4 ans pour que la Révolution se mette en place et accouche de la République. Il faut à peu près un an, depuis septembre 92 jusqu'à octobre 93, pour que le calendrier soit mûri, pensé au comité d'instruction publique.
Cela demande beaucoup de travail, en effet. Les politiques, les hommes politiques, les conventionnels, vont immédiatement solliciter un certain nombre de leurs collègues au sein donc de ce qu'on appelle la commission d'instruction publique, qui s'occupe dès 1792 de tout ce qui est instruction publique, plus généralement de la régénération de la société. Éduquer le citoyen.
Régénération, c'est un maître mot. Le personnage principal, peut-être, c'est un homme des Lumières qui a été précepteur d'un prince en Russie, qui connaît assez bien les milieux encyclopédistes et qui est élu du Puy-de-Dôme et qui s'appelle Rome.
Gilbert Rome, ancien mathématicien, médecin, proche des savants, aussi très proche du courant montagnard, qui va jouer en effet un rôle très important dans la mise en place de ce calendrier.
Il travaille avec des astronomes ?
Il travaille avec des astronomes, les membres de l'Observatoire de Paris, en particulier quelqu'un comme Lalande, Delambre, etc., qui Rome va en quelque sorte faire la médiation entre les savants et les hommes de lettres.
Vous diriez que, comme pour la réforme du système métrique, il y a une recherche de rationalité.
Il y a une volonté de se rapprocher de deux principes essentiels. D'une part la nature, d'autre part la raison. Il s'agit de simplifier et rendre plus commode, en voulant, vous l'avez rappelé, extirper tout ce qui concerne les bizarreries et les préjugés de l'Ancien Régime.
De l'ère vulgaire. L'ère des Français compte de la fondation de la République, le 22 septembre 1792, de l'ère vulgaire, jour où le soleil est arrivé à l'équinoxe vrai d'automne en entrant dans l'ère de la balance. Ah oui, l'astrologie les intéressait aussi ?
Il y a toute une mythologie autour de ce calendrier. L'Égypte, naturellement, joue un grand rôle et on voit en effet arriver pas mal de références liées à l'astrologie.
Alors, l'année commence le 22 septembre et ensuite les mois sont organisés en décades.
Tout à fait. Donc, l'idée étant de mois de 30 jours découpés en trois blocs, des décades de 10 jours à chaque fois, se terminant, vous l'avez rappelé, par le décadie.
Oui, mais ça va encore plus loin, le souci de rationalité. L'heure disparaît ?
L'heure disparaît.
Devrait disparaître ?
Devrait disparaître, puisque en effet, on met en place tout un système. L'heure va être divisée en 10 également. Il faut savoir que ça va être très compliqué. Ça va donner beaucoup de travail, en particulier aux horlogers, aux fabricants de montres, pour créer justement ce système de concordance. Système de concordance qui, du fait de sa difficulté, ne sera finalement jamais mis en place et aboli en 1795.
Mais dans les horloges qu'on fabrique, on va avoir
deux
l'ancien
cadrans,
style voilà. Et le nouveau style.
Deux cadrans, en quelque sorte, pour permettre aux individus de passer de l'un à l'autre.
Il est 13h38 au beau cadran de Radio France. Il faut qu'on parle maintenant de la manière dont se sont écharpés les conventionnels quant à la nomenclature. Alors, si la décade dure 10 jours, c'est primi, duodi, tridi, quartidi, quintidi, etc.
Oui,
jusqu'à décadi.
Décadi, oui.
Ah. Et les mois, alors le premier mois de l'année commence le 22 septembre et va se terminer le 21 octobre. Notre ami Rome, le député du Puy-de-Dôme, lui cherche à nommer les mois en fonction d'événements de la Révolution.
Tout à fait. Alors, il va y avoir en effet des affrontements concernant le nom de ces mois. Certains, comme Rome, veulent justement permettre à ce que ce calendrier devienne ce qu'on pourrait appeler un lieu de mémoire. C'est-à-dire, comment ce calendrier peut-il écrire une histoire immédiate de la Révolution ?
Par exemple, Bastille.
Complètement, Bastille. Et puis, n'oublions pas...
Concarde.
Et puis, le 21 janvier 93 également, la mort du roi. Donc, il y a tout un ensemble d'événements. Parce que parler du calendrier, naturellement, c'est parler d'un nouvel imaginaire politique, d'un système de fêtes, d'un système de célébration. D'autres savants vont au contraire privilégier des mois plutôt liés à la nature, aux événements naturels.
Et finalement, Rome va être mis en minorité, il va se retrouver un sous-comité, où ils ne seront que quatre, et lui fera face à trois artistes, David, et puis on parlait des poètes, Chénier, et Fabre d'Églantine.
Tout à fait, qui vont imposer leur nomenclature, hein, en particulier donc le nom des mois. Et puis, il faut pas oublier, hein, à travers justement le nom des jours, tout un système lié en particulier à des noms de fleurs. Et ils ont fait travailler, hein, parmi ceux qui ont beaucoup travaillé autour de ce calendrier, il faut pas oublier les professeurs du Muséum d'Histoire Naturelle, en particulier de leur jardinier, André Toin, qui vont jouer un grand rôle dans l'adoption des noms, hein, en particulier le nom de, des noms de, si on rappelle un petit peu les noms du mois de février, n'oublions pas, hein, c'est Cornouiller, Violet, Troène, Bouc. Aujourd'hui, nous serions le jour de la bêche.
Ah, moi j'avais calculé le jour de la violette, mais j'ai dû me tromper parce que c'est pas facile quand même. L'adaptation Fabre d'Églantine avait donc été informée par tous ceux qui portaient l'idéologie de la nature. Il avait lui-même beaucoup célébré cette idéologie dans il pleut bergère.
Je me nomme Martin, monsieur.
Et moi, Fabre d'Églantine.
Fabre d'Églantine, le poète ?
Lui-même, monsieur, pour vous servir.
L'auteur de cette délicieuse romance, Il pleut bergère ?
Entre tes blancs moutons, en effet, monsieur, je suis le coupable de cette bluette.
Oh, monsieur, pour la jouissance que j'éprouve à écouter cet admirable poème, permettez que je vous réembrasse.
Vous me touchez, monsieur, vous me touchez ?
C'est vous aussi, monsieur d'Églantine, qui composa de ce vers célèbre gravé dans toutes nos mémoires. Le cri d'un peuple libre et le cri de la gloire.
Oui, monsieur, c'est moi.
Ah, quelle joie, c'est pour moi de saluer un génie aussi éloquent.
C'est en pluviose que l'on s'est rencontrés. On peut pas dire que ça sentait l'été. J'avais le cœur tout couvert de frimas. Et dans mon âme, j'avais froid. C'est en ventose que l'on s'offrit l'amour. Des gels brutales qui m'avaient pris court. Et qui me fit sans aucun préavis changer le cap de ma vie. T'as révolutionné tout mon calendrier. J'ai l'été en hiver. T'as révolutionné tout mon calendrier. J'ai ma vie à l'envers.
Après un extrait de La caméra explore le temps, c'était Jean-Pierre Réginal. L'article 15 de la loi dit professeur, instituteur, père et mère de famille et tous ceux qui dirigent l'éducation des enfants s'empresseront à leur expliquer le nouveau calendrier. Ben, bonne chance, hein. Alors les auteurs d'almanach, ils sont obligés de tout changer, y compris Collot d'Herbois avec son almanach du père Gérard. Et alors les officiers d'état civil.
Il va y avoir une entreprise gigantesque de réformes autour de ce calendrier. Toutes les administrations à tous les niveaux, central et local, vont être mobilisés pour véritablement diffuser ce calendrier qui va devenir, hein, qui doit devenir une véritable encyclopédie politique, non seulement pour régénérer, comme on dit, les populations, c'est-à-dire leur faire apprendre un certain nombre de nouveaux principes, rompant avec l'ancien régime. Et donc, c'est pour cette raison qu'en effet, tous les officiers, n'oublions pas également à l'armée, hein, le rôle joué par un certain nombre de journaux, etc., le théâtre, les poètes, etc., les chansonniers, vont jouer un grand rôle pour diffuser en quelque sorte ce calendrier assez complexe, hein, vous l'avez dit, pour en faire en quelque sorte un objet de la culture populaire.
Et alors si je suis un simple officier d'état civil ou un modeste juge de paix et que je me trompe, on ne m'en veut pas si je remplace ce février par ventose avec une biffure.
Il y a une certaine tolérance. Il faut savoir qu'il faudra attendre 1797, hein, pour voir un petit peu les choses devenir un petit peu plus sévères. À partir de 1793-1794, on autorise même l'emploi des doubles dates dans les journaux en particulier, voire par les officiers d'état civil, les officiers administratifs.
Parce qu'il va y en avoir des résistances. Celle-ci est inattendue. C'est celle très tardive de Georges Brassens.
L'ère de la République commence le jour de l'automne. Et le calendrier républicain fait de telle sorte que l'année commence aussi le jour de l'automne. Le 22 septembre est le jour de l'an républicain.
Un 22 septembre, au diable vous partîtes. Et depuis chaque année, à la date susdite, je mouillais mon mouchoir en souvenir de vous. Or nous y revoilà, mais je reste de pierre. Plus une seule larme à me mettre aux paupières. Le 22 septembre, aujourd'hui, je m'en fous. On ne reverra plus autant des feuilles mortes. Cette âme en peine qui me ressemble et qui porte le deuil de chaque feuille en souvenir de vous.
que le brave Prévert et ses escargots veuillent bien se passer de moi pour enterrer les feuilles. Le 22 septembre, aujourd'hui je m'en fous, et c'est triste de n'être plus triste sans vous.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Le calendrier républicain avec Jean-Luc Chappet, le calendrier républicain tel qu'il s'impose à partir de l'an 2 et notamment pendant l'automne et l'hiver 1793 marqué par la lutte contre le fanatisme. Le 22 septembre, je m'en fous. On peut pas dire ça quand on est un citoyen français conscient de l'émergence de la nation et de la patrie en danger. Mais en même temps, on doit être un peu bouleversé par des changements de toutes sortes. Vous avez parlé du système métrique, il y a le calendrier républicain, il y a le changement du nom de pas mal de communes, il y a le choix de nouveaux prénoms, et tout ça dans la même volonté d'éradication du catholicisme.
Il y a la volonté de changer, bouleverser la culture, rendre en quelque sorte les transformations intangibles, empêcher le retour en arrière. Je crois que c'est quelque chose, c'est un mot d'ordre commun, avec la volonté de construire un avenir. Ce calendrier s'inscrit dans une vision utopique. Il s'agit véritablement de reconstruire l'ensemble des références culturelles, symboliques, qui ont pu faire le quotidien des Français. Je pense qu'à partir de l'an 2, la Révolution justement s'inscrit dans le quotidien des citoyens. Et c'est intéressant de voir comment d'ailleurs le calendrier, même s'il pose des difficultés, va être réapproprié très rapidement par les sans-culottes. Devenir sans-culottes, c'est justement connaître le calendrier. C'est un moyen d'affirmer sa politique, d'affirmer sa position politique.
Le sans-culotte, il parle en tutoyant ses interlocuteurs, en les qualifiant de citoyens, en donnant à ses enfants des prénoms républicains.
Prénoms républicains,
du genre
issus du nouveau calendrier. Bon, les plus célèbres sont des noms antiques. On va voir des Hercules, mais on voit aussi des noms, d'ailleurs, qui perdure pendant le 19e, voire le 20e siècle, qui montre bien l'héritage important de cette révolution, comme le nom des mois, le prénom Floréal, par exemple, qui est encore employé autour de Toulouse actuellement.
Valmy,
naturellement.
Marat,
un peu moins aujourd'hui.
Marat est moins durable. Le changement des noms des communes portées par les sectionnaires des sections sans culottes, il y a près de 10% des communes et beaucoup de villes qui changent de nom pendant l'an 2.
Le plus remarquable, c'est naturellement Saint-Denis, qui devient Franciade, et tous les noms comme ça, avec des saints, deviennent en effet avec de nouveaux noms.
Franciade, ça tombe bien que vous en parliez, parce que nous sommes le 29 février, donc les années bissextiles ne sont plus marquées de la même manière, mais les jours supplémentaires, on les nomme Franciade.
Oui, ou bien sans culottide. Donc on va trouver 5 ou 6 jours rajoutés en fil à la fin de l'année, en effet, qui sont des jours très importants, puisque ce sont des jours consacrés exclusivement aux fêtes républicaines.
Oui, vous parlez de l'appropriation, mais enfin, il faut dire que ce bouleversement s'est produit dans un climat de parodies, de menaces, avec beaucoup d'improvisation, beaucoup de transgressions. On ne racontera pas ce qui s'est passé à Franciade, à Saint-Denis, où les révolutionnaires ne se sont pas contentés de cracher sur les tombes des rois. Ici, un petit mixte, on a mêlé le Saint-Just de Pierre Cardinal et encore une caméra explore le temps pour donner une idée de ce qui se passait dans les églises bouleversées et devenues maisons communes.
À lâcher prise, ses yeux louches ne peuvent plus soutenir l'éclat de la lumière. Nous ne voulons plus d'idoles inanimées. Voici l'incarnation de la déesse Raison. Bien en chair, un chef-d'œuvre de la nature. Sacré de Marat remplace le ci-devant Sacré-Cœur de Jésus. Des ci-devant prêtres vont abjurer devant vous. Détruisons le symbole du fanatisme.
Autrefois, au nom du bon Dieu, les prêtres régnaient en tout lieu. Mais tout à
Déesse raison dévêtue, portée sur les autels, le pire sacrilège c'est d'utiliser des statues de la Vierge comme nouvelle déesse de la raison. On n'a pas parlé de la fonte des cloches. Si des cloches subsistent, les autres ayant été fondues pour usage militaire, c'est à usage civil et non plus pour convoquer les Français aux offices. D'ailleurs, quand peut-on encore faire des offices? Même avant que les églises ne soient transformées comme on vient de le voir.
Il y a une pression, en effet, à partir de l'automne 1793, une pression venue d'ailleurs d'en bas, hein, de très nombreux sans-culottes à Paris, mais aussi dans d'autres départements, s'emparent en quelque sorte de leur milieu, de leur environnement. Hein, c'est vrai que on a tendance toujours à réduire la déchristianisation à quelque chose de violent. Il y a des actes d'iconoclasme, effectivement, qui consistent également à se réapproprier un milieu, une proximité. On efface en quelque sorte des symboles, on se réapproprie sa rue, et on lui donne de nouveaux symboles. Donc, dans la déchristianisation, il y a aussi cette volonté de construire une nouvelle culture républicaine, naturellement, avec tout un ensemble de destructions.
J'entends bien, Jean-Luc Chappet, vous appartenez à une haute école d'histoire de la Révolution qui a souvent prêché ça, mais on désapproprie aussi ceux dont les parents avaient contribué à acheter des vitraux, avaient prié devant des vierges. Alors, il y a la question de la messe, qui ne peut plus avoir lieu pratiquement le dimanche, qu'il est recommandé de faire le décadi, et puis ensuite plus du tout. La bataille du décadi n'a pas que des aspects religieux.
Tout à fait.
Hein, les bourgeois révolutionnaires, parlons un peu de la bourgeoisie, où les grands propriétaires terriens trouvaient au fond très bien qu'on ne chôme qu'un jour sur 10 et non plus un jour sur 7. Voilà, c'est ça aussi la Révolution française.
Exactement. Et d'ailleurs, vous allez avoir de très nombreux ouvriers hein, qui vont se plaindre parce que pour eux, le calendrier républicain, cela veut dire la baisse du nombre de jours chômés. Hein. Donc, parmi les résistances au calendrier républicain, vous avez en effet des résistances quotidiennes dans les campagnes. De très nombreux villageois, des paysans, sans forcément être des contre-révolutionnaires ou des catholiques, eh bien, se plaignent tout simplement que ce calendrier ne corresponde plus à ce qu'on pourrait appeler le rythme de leur quotidienneté. Le rythme des marchés, des foires, etc.
Et le rythme du répit.
Et le rythme du répit.
Parce qu'au fond, la loi El Khomri qui se prépare, elle est d'inspiration révolutionnaire. Quand on nous explique que le dimanche n'est pas le premier jour de la semaine, ça c'est la tradition chrétienne vulgaire, bizarre, mais que le dimanche, ça peut être le cinquième jour de la semaine, mais on commence donc la semaine un peu quand on veut. On est un peu dans ce sillon-là, hein, comme quoi le gouvernement actuel est assez fidèle aux idéaux révolutionnaires. La bataille du décadi va créer des troubles insensés partout. Et c'est quand même très contre-productif pour la Révolution, pour une époque où la Révolution prétend mener la guerre à l'étranger.
Particulièrement à partir de 1795. Paradoxalement, c'est après la chute de Robespierre, dans un contexte de vitalité, de renaissance catholique, que cette bataille va devenir particulièrement violente.
Puisque vous parlez de la chute de Robespierre, on va quand même la marquer en indiquant qu'il avait espéré conclure la période de déchristianisation en transférant les sacralités et en essayant de réconcilier dans la décence tout le monde autour du culte de l'être suprême.
Partout on a dressé des arcs de triomphe et des reposoirs. Partout les rues de Paris sont tendues de banderoles avec des inscriptions. Le peuple français reconnaît l'existence de l'être suprême et de l'immortalité de l'âme.
C'est très bien cela.
Un cortège immense a défilé. Les vieillards portant des branches de chêne, les jeunes hommes armés de sabres, les mères vêtues de blanc avec des rubans tricolores, les jeunes filles portant des roses. Et le peuple a applaudi.
C'est très beau ça.
Oui, mais s'il y avait la convention, il y avait les députés de la convention et j'étais parmi eux. Le drame, vois-tu, c'est que Robespierre est présentement le président de la Convention. Il a donc marché seul devant nous avec un gros bouquet dans les bras. Nous avions l'air loin derrière lui de former son escorte. Il a parlé seul. Seul, il a mis le feu à la statue de l'athéisme. Seul, il a grimpé sur le rocher artificiel construit par David. Et seul, de nouveau, il a parlé.
Je ne vois pas, Philippe, ce qu'il y a là d'inquiétant.
J'ai entendu les réflexions de nos confrères et de leurs quolibets Et aussi dans le public, j'ai entendu les mêmes quolibets, les mêmes réflexions. On parlait de tyrannie. On parlait de dictature, on disait quoi ? Il ne lui suffit donc plus d'être roi, il veut donc être Dieu.
Le vrai prêtre de l'être suprême est la nature. Son temple est l'univers. Son culte est la vertu.
Et le tien, celui des meurtriers !
La révolution n'a été qu'une transition entre un règne de crime et un règne de justice.
On n'a jamais fait aussi souvent appel à la marge de l'histoire, à la caméra explore le temps. Donc, Robespierre veut rebaptiser ceux qui se sont arrachés aux conséquences de leur baptême catholique. Il veut débaptiser ceux qui se sentent toujours catholiques et créer une communauté fusionnelle. On entend dès l'instant où la fête de l'être suprême a eu lieu que c'est impossible. Et la polarisation va continuer, notamment autour du calendrier. Ce qu'on sait peu, c'est que le directoire, à partir de 1797, a cherché à rétablir l'observation la plus stricte du calendrier républicain.
Oui, parce que comme vous l'avez rappelé, à partir de 1795, c'est d'ailleurs le moment de la convention thermidorienne, les débuts du directoire sont marqués par une véritable offensive, non seulement des catholiques, qui vont se réapproprier les mots d'ordre en faveur justement de la remise en place de ce que Alain Corbin appelait une culture sonore, remettre en place les cloches. La bataille du calendrier va jouer un grand rôle à ce moment-là. Et après les victoires politiques, électorales, de ceux qu'on va appeler et stigmatiser comme royalistes, les républicains, à partir de août 1795, vont chercher à imposer de manière très rigoureuse le suivi de ce calendrier par toutes les populations. Désormais, il ne s'agit plus de chômer le décadi et les administrations vont se montrer d'autant plus strictes dans ce respect du calendrier.
Septembre 98, si nos auditeurs ont bien suivi, c'est Fructidor de l'an 6 de la République, une loi sur l'observation du calendrier. Bon, c'est quand même un fétu de paille qui va disparaître au fil du consulat qui va venir. Alors, le consulat, évidemment, c'est la réconciliation avec l'Église, le choix du concordat et donc la réouverture des églises et de leurs services.
On ne peut pas, en effet, tout... Bonaparte va tenter, en quelque sorte, de réconcilier tout le monde à travers, justement, cette volonté, après le concordat, de faire en sorte que les deux calendriers puissent subsister. Bonaparte va rapidement se heurter à un certain nombre de problèmes, en particulier liés à l'extension territoriale. Comment peut-on, encore une fois, faire du calendrier français un calendrier européen ? C'est derrière des contradictions, on parlait de résistance tout à l'heure, Bonaparte va se trouver à devoir répondre à certaines exigences.
Parce que l'idée, c'était que l'esprit français allait imposer son calendrier au reste de l'Europe. Mais alors, quand on veut soumettre, conquérir, comme le fait Bonaparte, il vaut mieux avoir le même calendrier.
Exactement.
Et aussi pour les fournitures de guerre.
Et finalement, les milieux d'affaires vont faire pression pour revenir, en quelque sorte, à un même calendrier en Europe.
Donc, une des raisons de l'échec, c'est que l'exceptionnalité française est restée extrêmement isolée. Mais enfin, le poids de l'Église et l'explication par le Concordat est quand même déterminante.
Déterminante. Hein. Même s'il ne faut pas négliger les succès de ce calendrier. Comme on l'a dit, dans certaines grandes villes à Paris, ce calendrier a été approprié.
Et puis, il est resté un peu dans la mémoire collective, 1848, 1871. Quelques prénoms républicains sont encore utilisés, alors qu'il a été interdit dès le 11 germinal. En 11 dès 1803, à la fin du consulat, d'en faire usage. Merci à vous, Jean-Luc Chappet. Cette émission était réalisée par Jacques Sigal avec à la technique Stéphane Poitvin et c'était un spécial année bissextile.
Quel âge avez-vous ?
8 ans, Excellence.
8 ans,
oui, Excellence.
Je suis né le 29 février, une année bissextile. Mon anniversaire donc ne revient que tous les 4 ans. Bon. Qui me fait une année d'âge officiel par groupe de 4 années officieuses. En bref, j'ai donc 8 fois 4 ans, soit un total de 32 années. Mais en réalité, pour l'état civil, j'ai 8 ans. Félicitations, mon ami, car pour un gamin de 48 mois, être foutrement avancé pour votre âge.
Chacun aura reconnu Pierre Dac, j'ai pas salué la plus jeune d'entre nous, Clara Garçon, qui a préparé cette émission. Eh bien, demain nous aiderons aux États-Unis, c'est le Super Tuesday, Bernie Sanders joue sa dernière chance, va-t-il être éliminé après cette série d'élections primaires ? Et donc la question que nous poserons, peut-on être socialiste aux États-Unis ? Y a-t-il dans ce domaine une tradition et le système politique états-unien l'a-t-elle empêché de se développer ?